les points de collecte ont été fermés temporairement. La Croix-Rouge appelle à ne pas baisser la garde car ce n'est que le début de la crise d'urgence. Par ailleurs, un télémarathon est prévu ce vendredi sur les télévisions locales de Medellín et de sa région. Début de la transmission dès 6h du matin. Najed Benrabah, Medellín, RFI.
L'actualité internationale de ce vendredi, c'est aussi l'ambassadeur américain à Tokyo qui dit reconnaître la souveraineté japonaise sur les îles Kuriles, des îles revendiquées à la fois par le Japon et la Russie, dont le président Vladimir Poutine s'est rendu sur place hier pour la première fois, déclenchant la colère de Tokyo.
Un retour en France pour parler politique à présent, à moins de 8 mois de l'élection présidentielle. Pas question de lever le pied sur la campagne pendant l'été pour les partis politiques.
Et quoi de mieux qu'un cahier de vacances à la plage pour diffuser ses idées après les communistes dans les années 2000 et les socialistes l'été dernier. C'est au tour de la France insoumise et de Renaissance de livrer leur version du cahier de vacances. Une façon de tracter sans vraiment donner l'impression de le faire, Marie Lecoq.
75 pages de jeux et d'horoscopes dans le cahier des insoumis avec un test de personnalité pour savoir à quel révolutionnaire ressemble le lecteur. 12 pages pour Renaissance, des quiz et des tacles à ses adversaires. Pour LFI, quel hymne est-il souhaitable de siffler ? Référence aux propos de l'insoumis Bali Bagayoko sur la Marseillaise. Pour la sémiologue Mariette Darigrand, la cible est claire, des électeurs déjà convaincus.
C'est un objet de marketing, il n'y a pas de doute, pour créer une forme de complicité, de connivence avec son cercle proche. C'est pas avec un cahier de vacances pour adultes que vous allez convaincre des gens qui ne sont pas déjà convaincus.
La sociologue relève toutefois un décalage.
Depuis plusieurs années, les partis politiques sont très très anxiogènes. Ils utilisent des mots qui font peur. Là, pof, arrive l'été et ils nous proposent exactement l'inverse. Le jeu, la légèreté. Et ça me paraît trop en contraste.
L'ADN d'un cahier de vacances, c'est aussi et surtout d'apprendre. Mais pour la sociologue Mariette Darigrand, dans le cas de la politique, la logique est tout sauf neutre.
Ça n'est pas un outil objectif de transmission du savoir.
Radio G. www.radio-g.fr.
Hello tout le monde, hello la cité du roi René. Alors, vous êtes de passage pour les vacances, eh bien, bienvenue à vous. Vous habitez ici à l'année, eh bien, on est ravis de vous retrouver. Radio G vous accompagne tous les matins de 8h à 9h, du lundi au vendredi, et donc même l'été. Peut-être filez-vous d'ailleurs en voiture sur le boulevard Albert Camus, un petit peu pressé malgré les vacances, ou peut-être barbotez-vous déjà tranquillement sur un pédalo à la base de loisirs du lac de Maine. Vous perdez pas de temps. En tout cas, dans les deux cas, on est ravis de partager ce moment avec vous. Allez, voici ce qui vous attend dans l'heure qui suit. La drôle de vie de Léona Graal pour un shoot d'absurdité et de burlesque dès le matin. Votre horoscope angevin. Puis le cœur de l'émission avec des extraits d'hier et d'aujourd'hui pour explorer toute la richesse musicale et ludique de la radio. Vers 8h55, en fin d'émission, on retrouvera également Scandale, notre podcast inédit de l'été sur les grandes affaires qui ont marqué les esprits. Puis évidemment, la météo qui va vous donner les températures du moment, celles de ce matin, cet après-midi et ce soir. Allez, on remonte le son, on prépare la crème solaire et on file justement écouter la météo du jour sur Angers. Bonjour et bienvenue dans Savourer nos différences.
Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Radio G. En ce moment, à Angers, il fait 22 degrés. Pour ce matin, attendez-vous à un ciel très nuageux. Le thermomètre affichera 24 degrés. Cet après-midi, profitez d'un ciel parfaitement dégagé. La température atteindra 37 degrés, une canicule qui s'installe. Ce soir, le ciel sera bien couvert. 34 degrés au thermomètre, pensez aux personnes fragiles de votre entourage.
C'était la météo pour aujourd'hui. On vous souhaite une belle journée.
Avant de retrouver le premier podcast du jour, eh bien on va parler de vous. Voici la première partie de l'horoscope du jour.
Bélier.
Jupiter favorise l'abondance. L'abondance de bonnes attentions surtout.
Scorpion.
Votre vie sentimentale décolle enfin. Restez bien attaché jusqu'à l'atterrissage.
Capricorne.
Jupiter favorise les rencontres. Du côté du jardin des plantes, l'ambiance s'y prête. Les pigeons aussi attendent quelqu'un.
Sagittaire.
Vous trouverez de l'argent là où vous ne l'attendez pas. Vérifiez vos poches.
Gémeaux.
Uranus en maison 6 chamboule vos habitudes. Votre corps proteste. Bon, de toute façon, il proteste tout le temps.
Lion.
Vous séduisez avec aisance. Aisance qui surprend tout le monde, à commencer par vous.
Vous écoutez Savourez nos différences et voici, comme tous les jours, Léon Nagral et sa drôle de vie.
La drôle de vie, la drôle de vie, la drôle de vie.
Dans certaines radios associatives, on diffuse à l'antenne des titres non commerciaux, souvent méconnus et parfois surprenants.
Aïe, aïe, oui, 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 aïe, 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 oui, oui, aïe, oui, oui, aïe, oui, oui.
Et voilà, de retour à Radio-Casion, ici Pierre-Louis Trudeau-Dely. On vient d'entendre une interprétation, ma foi, très... qui a vraiment de la... Bon, je finirai ma phrase quand j'aurai trouvé un adjectif approprié. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a une sonorité tout à fait atypique, hein, comme tu l'as entendu. Oui, je me permets de tutoyer mon seul et unique auditeur. En fait, pour t'expliquer, l'artiste a frappé ses testicules sur un tambour pendant l'enregistrement. D'ailleurs, son album s'appelle Robert Spète les bourses sur le tambour. Et j'ai la chance de le... Bonsoir Robert.
Bonsoir Pierre-Louis.
Alors, on a écouté un extrait de votre... je sais pas comment appeler ça, mais quoi qu'il en soit, il s'agit de votre premier album, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, c'est le premier et je pense que ça sera le dernier.
Ah bon, pourquoi?
Bah parce que j'ai plus de couilles.
Ah oui, oui, bien sûr, d'ailleurs c'est un single, hein. Vous n'avez pas pu enregistrer d'autres chansons.
Oui, une seule, ça m'a suffi.
Robert, dites-nous.
Oui.
Ah non, pardon, on a perdu notre auditeur, donc dites-moi plutôt d'où vous est venue l'idée comment avez-vous envisagé la... Parce que pourquoi le...
Très bonne question, Pierre-Louis, en fait c'est une technique ancestrale qui se transmet de génération en génération dans ma famille.
En tout cas, j'imagine que vous ne pourrez plus la transmettre maintenant que vous êtes stérile.
Ouais, c'est vrai, j'ai pas été très cul avec mes testicules.
Comme on dit, vous n'êtes pas les deux couilles mortes.
C'est sûr, mais j'espère au moins que l'album fera un minimum de ventes.
On espère aussi que vous ayez un peu d'argent pour en refaire d'autres.
D'autres couilles?
Non, non, d'autres albums.
Ah, ok, ok, ok.
En tout cas, merci pour cet échange, Robert.
Au plaisir.
Quant à moi, étant donné que plus personne nous écoute, je rends l'antenne et vous bascule sur la fréquence de Radio Mammouth qui sera plus intéressante. Bonsoir. Eh bien, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute de Radio Mammouth, ici Samuel Casse-la-Croûte. Faites bien attention à vous si vous êtes sur la route. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Fabien Lagoutte. Bonsoir à vous.
Bonsoir Samuel.
Première question, Fabien, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui rime avec août?
Touf?
Non, pas avec ouf, avec août.
Foutre?
Non, bon, laissez tomber. Alors Fabien, vous êtes un expert en chansons rétro.
Exactement.
Il paraît que vous connaissez toutes les chansons rétro par cœur, c'est vrai ça?
Oui, oui, tout à fait. Je connais tout parfaitement sur le bout des doigts.
Mais quand on chante, c'est avec la bouche.
Oui, pardon, je veux dire, je connais tout sur le bout des lèvres.
C'est vrai que plus personne n'écoute de vieilles chansons aujourd'hui.
Oh si, vous savez, il y a quand même plein de gens qui...
Oui?
Bon là, j'ai pas d'exemple, mais je suis sûr qu'il y en a.
Si je vous dis Georges Brassens, par exemple.
Oh lui, ça fait longtemps qu'il écoute plus rien, il est mort.
Non, je veux dire, plus personne n'écoute du Georges Brassens, si.
Eh ben, figurez-vous que moi-même, je...
Ah, vous en écoutez?
Non, pas du tout, c'est ce que j'allais dire, moi-même, j'en écoute pas.
On a une question ici d'une auditrice qui nous demande ce que vous pensez de l'évolution de la musique.
Ah, bah ça, c'est une... Eh ben, vous savez, pour tout vous dire, moi je pense que... Vous voyez, je...
Vous voulez peut-être reformuler votre phrase?
Non, je suis assez content du résultat.
Merci Fabien.
La drôle de vie.
Des extraits, des souvenirs, des archives, de la musique, c'est Savourer nos différences sur Radio G du lundi au vendredi de 8h à 9h.
C'est parti pour un moment de jeu avec l'équipe du QG. Questions en tout genre, bonne humeur garantie et même une IA parmi les chroniqueurs.
QG, bienvenue.
C'est le moment de la personnalité. Écoutez bien son histoire. Et avec les commentaires, à vous la victoire.
Alors, acteur studio, ce soir, le personnage mystère est interprété par Clément. Qui est-il?
Bonjour, je suis français.
Il est français déjà.
Je suis français. Ma vie a été marquée par le service et la fête. J'ai travaillé pour des personnes de haut rang et j'ai acquis une certaine renommée dans mon domaine. J'ai passé une grande partie de ma carrière à organiser des festins et des réceptions somptueuses. Mon talent pour la gastronomie et l'organisation d'événements était reconnu dans les cercles aristocratiques. Est-ce que les gens répondent ou est-ce que je vais...
Non, continue sur le chat, ils peuvent répondre aussi.
J'ai servi dans la maison d'un prince très influent où j'ai eu l'occasion de démontrer mes compétences lors d'une réception particulièrement importante pour le roi Louis XIV.
Ah, on le situe déjà. Ah.
Je suis né à Paris, mais c'est à Chantilly que j'ai connu mon heure de gloire et ma fin tragique. Mon nom est souvent associé à l'excellence de la cuisine française et à l'art de recevoir. On raconte que c'est un problème de livraison de poisson qui a précipité ma faim. Ne supportant pas l'idée d'un échec dans mes responsabilités, j'ai pris une décision fatale. Ma mort est survenue en 1671, pendant une réception que j'organisais pour le roi. Elle est devenue un symbole de l'extrême dévouement au devoir et à l'honneur. Aujourd'hui, mon nom est toujours connu dans le monde de la gastronomie et mon histoire est souvent citée comme un exemple de perfectionnisme poussé à l'extrême. Mon prénom est François et mon nom commence par un V. Il est aussi l'anagramme de Valet.
Yann proposait le nôtre du coup sur le chat, mais donc, on s'accepte plus ça du coup.
Ouais, c'est facile. Ça vous aviez des filles? Non? Non plus, Sonia? Tu vois pas qui ça peut être?
Moi j'ai. Oui.
Ah, bah oui, forcément. Et puis non plus.
Bah, j'avoue qu'en lisant, je ne sais pas.
Avec Valet, vous pouvez vous faire le. Oui, les lettres.
Oui.
Valet. Et donc, il y a deux lettres inversées.
C'est Vatel. Si c'est Vatel.
Oui. Ah, c'est
ça. Effectivement, c'est François Vatel.
Il l'avait aussi sur le
chat. Il l'avait après sur Vatel. Ah, d'accord. Vatel, effectivement. De son vrai nom, Fritz Karl Vatel. Il est né en 1631. Et effectivement, comme le poisson n'arrivait pas lors d'une grande festivité qu'il avait organisée pour le roi, eh bien, il s'est donné la mort parce qu'il disait, voilà.
Oui.
Oui, voilà. Ah, ben, il fait pas les choses qu'à moitié.
Hein. Ah, heureusement qu'il vient pas chez Soucy Job, lui. Je savais pas mieux.
Bienvenue. Vous écoutez Savourez nos différences, l'émission des émissions sur Radio G du lundi au vendredi de 8h à 9h.
Voyage musical sous les cocotiers avec cet extrait de Balade intertropicale.
Nous poursuivons avec NJ, à portée de rien, le titre.
À portée de rien.
À portée du sort.
Angie.
À portée de rien.
Sur Radio G. Savourez nos différences.
8h, 9h, c'est la matinale de Radio G avec Savourez nos différences.
Il est 8h25 sur Radio G. On retrouve Raphaël et toute son équipe pour Tendance à me plaire, une des émissions des archives de Radio G.
Sérieux.
Allez, maintenant, on prend soin de la planète avec toi, Jérémy.
J'ai passé une partie de ma chronique à Manu, hein, du coup, qui a pris le relais sur tout ce qui était plastique et perturbateur endocrinien. Moi, je vais rester sur quelque chose d'un peu plus classique, mais dont on se méfie pas, du coup, le sable, hein, comme on l'a vu en début d'émission. Ça gratte, certes. Ça gratte, mais le problème, c'est qu'on en a plus. C'est quand même fou.
Il n'y a plus de sable.
Dans nos rivières, il n'y a plus de sable.
Ouais. C'est une ressource non renouvelable et en voie de disparition. Le sable.
C'est pas renouvelable. On casse des cailloux, puis ça fait du sable.
Voilà, mais bon, c'est un peu compliqué de casser des cailloux, ça demande de l'énergie.
Si c'est comme les diamants, peut-être que ça peut être fait de manière chimique.
Alors, ça peut être fait de manière artificielle, en cassant justement des cailloux ou en recassant du verre.
Du sable en plastique,
ouais. On avait dit qu'on en reparlait pas cette
année. D'accord.
Raphaël, il va tomber sur le poil. Sur la poêle. Donc, le sable, en fait, on s'en doute pas, mais c'est la troisième ressource utilisée par l'homme après l'air et l'eau, en fait. Donc bien avant tout ce qui est pétrole, charbon, etc. Notamment parce que ça correspond à 2/3 du béton. Le béton, c'est du ciment et du sable. À 2/3, et donc quasiment toutes nos constructions sont faites en sable. Il y a également beaucoup d'autres choses qui sont utiles grâce à du sable. Donc il y a tout ce qui est filtration, les processeurs de tous nos téléphones, nos ordinateurs sont faits à base de sable aussi. Et il y a aussi des choses un petit peu moins connues. On retrouve du sable dans le vin, le papier, la lessive. Ouais. C'est ça. Et également dans la nourriture sous forme de dioxyde de silicium ou E551 de son petit nœud. C'est un anti-agglomérant qui est aussi utilisé.
Puis le verre.
Donc, et le verre.
C'est du sable fondu.
Donc voilà, on aime tellement le sable qu'on va jusqu'à le manger. Et donc après l'exploitation des fleuves et des littoraux, l'industrie se tourne naturellement vers les fonds marins pour essayer d'en récupérer toujours le plus
possible.
Dans
le désert.
Dans le désert, figurez-vous que le sable ne sert à rien parce qu'il est trop rond. Avec le vent, il est brassé par le vent en permanence, ça fait des grains tout ronds et on peut pas l'utiliser pour les constructions.
Ah, c'est ça, on peut pas l'utiliser. C'est pas que...
On peut pas faire de béton avec.
Il faut du sable basmati alors.
Effectivement, du sable long.
C'est ça.
Il faut du sable avec des angles en fait pour réussir à faire des constructions avec. Si on prend l'exemple du Burj Khalifa, il a fallu pas moins de 45 000 tonnes de sable pour le faire, qui vient d'Australie. Et pas des déserts des Émirats Arabes Unis parce qu'ils peuvent rien faire avec.
Ah, mais alors ça voilà. Bête, ça.
Bon, après, nous, en France, on importe bien du granit de Chine pour pour paver nos places. Donc, bon, c'est un petit peu l'hôpital qui se manque de la charité. Donc, 45 000 tonnes de sable pour le Burj Khalifa, c'est tout juste un kilomètre et demi d'autoroute. Hein. Donc, c'est quand même pas grand chose. L'autoroute entre Angers et Nantes est quand même vachement plus impressionnante que le Burj Khalifa à Dubaï finalement.
Au niveau sable,
voilà. Les industriels se mettent à creuser au large, sauf que le problème c'est que si on creuse un trou sous la plage, forcément la plage elle se barre pour remplir le trou, et donc malheureusement ça participe à l'érosion des plages, et donc on a des plages entières qui se mettent à disparaître à cause de ça. C'est le changement climatique, hein, ma pauvre dame. Hein, sauf que, effectivement, le changement climatique a le dos large. Surtout, quand on lui met une disparition de plage sur le dos, il menace pas de licencier tout le monde.
Normalement, la disparition des plages, c'est parce qu'ils bétonnent aussi. Donc finalement,
ils prennent le sable au large pour faire les constructions sur la plage. Donc effectivement, d'un côté, on met du béton et de l'autre côté, ça s'écoule pour combler le trou. Donc voilà, holà sur le sable pour sauver nos plages. Acheter des bouteilles en plastique à la place.
C'est ça. Hey, t'as mis un petit lien sur.
Alors j'ai mis un lien effectivement sur le planétoscope dont on avait parlé l'année dernière, où on voit là aussi toute la consommation de sable. Alors on parle de milliards de mètres cubes, ça dépasse l'entendement. Hein, c'est vraiment une consommation assez hallucinante.
Donc sur la page Facebook.
Sur la page Facebook
de l'émission, vous avez le lien.
Il y a le lien. Alors quand c'est une plage qui disparaît, ça va. Hein, bien qu'il y ait quand même une vingtaine d'îles en Indonésie qui est disparue comme ça, bouffée par le voisin Singapour, qui a dragué justement au fond de la mer pour faire ses buildings. Mais le marché est tellement juteux qu'il y a vraiment une véritable mafia du sable qui a vu le jour. Et donc, on a également de l'extraction illégale qui est faite un petit peu partout. Et l'année dernière, c'est carrément un pont qui s'est effondré en Inde. Pas parce qu'il était défaillant, mais parce qu'il y a eu du sable qui a été extrait illégalement à côté. Et du coup, ça a sapé la base du pont.
D'accord.
Donc voilà, ça peut mener assez loin, tout ça pour du sable.
Mais on va plus dormir maintenant.
Oui, effectivement. Le marchand de sable est en rupture de stock. Excellente transition, Bruno. Je vous invite à regarder
Riz basmati était meilleur.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.
Tu t'endors aussi avec du riz basmati, ça doit être moins efficace quand même.
Bah si tu l'envoies dans la gueule.
Si t'en manges assez, ouais, c'est ça. Bon alors la bonne nouvelle pour ce début d'année, c'est le lancement en bêta de la plateforme Imago TV. Vous allez voir la transition après. C'est l'équivalent de Netflix, mais avec que des reportages et des émissions sur la transition du coup énergétique et citoyenne. Et je vous invite dans ce cadre-là à regarder notamment la très bonne web-série Et tout le monde s'en fout, dont le premier épisode était justement sur le sable. Testez ce Netflix du futur. Je vous ai mis ça sur la page Facebook.
C'est une série web.
Et tout le monde s'en fout. C'est une web-série, effectivement, sur YouTube. Et elle fait partie des contenus qui sont rassemblés sur la plateforme Imago TV avec plein d'autres documentaires, reportages. D'accord. Vous avez vraiment plein de ressources là-dessus. Ça vous scotche tout pareil que Netflix, sauf que là c'est pour la bonne cause. Et puis ça permet de trouver des sujets aussi un petit peu plus joyeux dans deux semaines, promis.
On vient de vous mettre le lien sur la page.
Voilà, vous avez le lien.
Savourez nos différences tous les jours de la semaine sur Radio G.
Pour la musique qui suit, place aux femmes et à la chanson française avec un extrait de l'émission « Elle chante la francophonie » animée par Michel.
Et pour continuer, je vous propose Claire Elzière, autrice et compositrice tourangelle, qui revisite une chanson bien connue de Juliette Gréco, « Un petit poisson, un petit oiseau ». Claire Elzière.
Petit poisson, un petit oiseau, ça m'aide à mon retendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, ça m'aide à mon retendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage. Ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, ça m'aide à m'en retendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, ça m'aide à m'en retendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage. Qui apporterait du ciel bien plus qu'un message, qui pourrait d'un coup changer au cours du voyage. Des plumes en écailles, des ailes en chandail et des ailes en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, ça m'aide à m'en retendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, ça m'aide à m'en retendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, ça m'aide à m'en retendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, ça m'aide à m'en retendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut?
Radio G en DAB+ sur Angers. Savourez nos différences.
Il est déjà 8h34 sur Radio G. D'où viennent les choses? C'était mieux après, nous ramener aux origines de tout. Voici une de leurs enquêtes passionnantes.
Vous me permettrez en passant de vous présenter ma chanson sans chemise, sans pantalon.
Forcément. Il fallait que tu l'aies quand même.
Ah bah oui, merci beaucoup. Et oui, qu'il soit de costume, cargo, chino, en jean, droit, skinny, large, le pantalon est partout. Et désolé Jérémy pour la planète, mais c'est 90 millions de jeans Levi's qui sont vendus chaque année. Je sais, t'as mal.
Ils sont vraiment pas très résistants.
Mais quelle est l'origine du pantalon? Eh bien, c'est au néolithique, soit de 3200 ans avant Jésus-Christ.
Mais ils sont tous retenus. Alors on dit, allez, on va apprendre le nouveau langage, on va brancher dans des tasses, et puis, hop, si on se fait en pantalon. Et il y avait un club à l'époque.
Ils sont très forts.
Ouais.
Et donc, les hommes portaient des sortes de jambières. Voilà, donc c'est les premiers pantalons avec une sorte d'entrejambe en plus. C'était bien pensé quand même.
Une jambière.
C'était intelligente.
Bah oui, c'est le principe du pantalon.
Mais voilà, ça là.
Sinon, c'est une jupe. Hein.
Alors non, parce que vraiment, là, il y avait une sorte de... Je sais pas, vous leur demanderez. Enfin,
parle-nous de leur entrejambe.
Oui, alors les premiers pantalons avec entrejambe proviennent en fait de l'antiquité chinoise. Là, on avait des choses un peu plus élaborées.
D'accord.
Conçues principalement pour monter à cheval. Et en fait, toutes les civilisations antiques adoptent le pantalon pour la pratique du cheval au final. Sauf les Romains, qui y voient un symbole barbare.
Mais ils avaient quoi avant pour monter à cheval? Ils étaient en slip, ils étaient
à poil.
Non, c'était des sortes de jupes longues en fait.
C'est ça, des pagnes.
Oui, des pagnes, oui, selon les pays, ça s'appelle différemment. Mais c'était long. Et voilà, donc symbole barbare pour les Romains, qui eux restent en jupe. Donc au 3e siècle, c'est l'armée qui l'adopte. Ce qui va faire un effet un petit peu boomerang. Mais ce n'est qu'au XVIe siècle, au final, qu'il fait une réelle apparition en Europe. D'ailleurs, le thème pantalon vient d'où? Eh bien, il vient de pantalone.
C'est italien,
hein? Italien, c'est pas mal. Hein?
Ouais.
Commedia dell'arte, bien sûr, c'était un petit personnage qui avait une grande culotte bouffante.
Ah,
qui faisait le clown.
Okay.
Voilà. Donc, en fait, ensuite, au Moyen-Âge, on appelle ça les chausses. Donc des sortes de jambières, on revient aux jambières en fait, mais améliorées, cette fois un peu plus jointes dans le dos en fait. Mmh. Et ensuite à la Révolution, évidemment, c'est un symbole politique. Tout le monde connaît les sans-culottes par opposition à la noblesse.
Ah d'accord, ok.
En 1830, enfin, en Angleterre, il est très rapidement le bas le plus porté par l'homme. Ensuite, on a rajouté une sorte de braguette.
Ouais.
Car tout cela reste encore une histoire d'homme, bien sûr.
Bah oui.
Évidemment, pour les femmes, c'est plus compliqué. Les femmes persanes portaient ce vêtement depuis déjà plusieurs années. Mais en France, ce n'est que pendant la Révolution qu'une femme qui voulait porter le pantalon avait une petite autorisation, mais elle devait se déclarer à la police avant, puisqu'il y avait une loi anti-pantalon pour les femmes.
Ah bon, il faut avoir son petit papier.
Exactement, il faut aller se déclarer avec son pantalon. Donc, il est toléré par les femmes aussi, exerçant un métier d'homme, bien sûr, les aviatrices, les cyclistes. Et c'est d'ailleurs par le sport, et surtout le cheval, que les femmes vont avoir un petit peu ce droit de porter des pantalons.
Mais du coup, c'est une bonne idée, parce que ceux qui s'habillent mal, ce serait bien de passer une loi comme ça, ou de demander la permission.
Il faudrait tellement de lois.
Ouais, ok.
Et ce serait sans fin.
Mm-hmm.
Donc, aussi,
tu serais tout le temps au poste, toi.
Oui. Ah, je mettrais des amendes, mais à tire-larigot, moi.
Ah, dans ce sens-là, d'accord.
Non,
je pensais pas dans ce sens-là.
Je sais,
contre,
mais non.
En taux, le bruit.
C'est ça.
J'attendais
le revers. Perfecte pour toi. Et donc, comme Coco Chanel, et bien qui faisait du cheval, elle a créé sa collection spécifique pour émanciper un peu les femmes. Tout ça va permettre aux femmes une grosse émancipation et une petite libération aussi, puisqu'elles portaient des tenues qui étaient quand même très très encombrantes avant. Enfin, en 1930, les actrices hollywoodiennes comme Marlene Dietrich choquent Hollywood, mais démocratisent en portant même des smokings. Alors là, on est au level au-dessus, c'est vraiment hyper choquant. Ensuite, c'est enfin à l'après-guerre qu'il devient socialement accepté. Donc c'est encore un petit peu limite pour les femmes, mais ça passe. Et enfin, en 1960, c'est Yves Saint-Laurent qui crée le premier vrai pantalon pour femmes et qui entérine une bonne fois pour toutes la dictature.
C'est super récent quand même.
C'est très récent au final. Pour les femmes, c'est vraiment un bouleversement, puisqu'avant, on était quand même très embêtés. Et maintenant, une personne a en moyenne 6 à 10 pantalons dans son dressing. Est-ce que c'est votre cas?
Ah non.
Oui. Moins Bruno?
Non, moins, beaucoup moins.
C'est vrai?
Ah oui, oui.
6 à 10, c'est pas tant que ça?
Ah oui. Non,
c'est vrai?
Moins, oui. Oui, surtout quand c'est un jean. Enfin, un jean ressemble à un jean.
Non, c'est la génération d'après, c'est pour ça, moi j'en ai au moins 12. Hein.
Ah oui, quand même.
T'en as plus de 10, d'accord.
Radio-G.fr. Savourez nos différences.
Une BO culte? Eh bien, c'est dans Générique.
Le journal de Générique. Journal présenté par David.
Eh bien, bonjour à tous. Je vous propose donc un nouvel épisode du journal de Générique. Il y a très longtemps qu'il avait eu lieu, le dernier. En effet, ces derniers jours, ces dernières semaines ont été assez mouvementées avec des actualités au sein du monde du cinéma et des séries. Malheureusement, ces actualités ne sont pas toujours réjouissantes. En effet, nous allons parler dans un premier temps, en tout cas, des acteurs qui sont disparus récemment. Bon, j'entends déjà certains qui vont sauter de nouveau sur l'occasion pour dire « c'est encore la nécrologie sur Générique ». Mais parfois, nous sommes bien obligés d'en parler. Donc effectivement, nous allons pouvoir se remémorer un peu des bons acteurs avant de faire peut-être une émission sur certains d'entre eux. Puis nous verrons également quelques informations sur les films ou séries à venir, mais pas nécessairement pour 2026. Tout d'abord, parlons de la disparition d'une grande actrice, Diane Keaton. Diane Keaton, l'actrice oscarisée, très appréciée, est décédée le 11 octobre dernier en Californie à 79 ans. Originaire de Los Angeles, Diane Keaton a abandonné ses études d'art dramatique en Californie et s'est installée à New York pour poursuivre sa carrière d'actrice, Precious People. C'est là qu'elle a obtenu son premier rôle marquant à Broadway dans la pièce Played Again Sam de Woody Allen. Quelques années plus tard, elle a adapté son rôle dans la production théâtrale de 1968 au grand écran. Diane Keaton a joué aux côtés d'Al Pacino dans le film sorti en 1974, Le Parrain, s'imposant rapidement comme une star montante d'Hollywood. Elle a remporté son seul Oscar en 1977, retrouvant Woody Allen pour jouer son amour dans Annie Hall. Elle a ensuite été nominée pour d'autres films, notamment La Chambre de Marvin, dans lequel elle partageait l'affiche avec Meryl Streep et Leonardo DiCaprio. Si sa carrière, à la fois comme actrice et réalisatrice, témoigne d'une grande richesse, ce sont néanmoins sa personnalité singulière et son humilité qui ont le plus marqué son entourage. Nous essaierons donc de faire une émission sur elle prochainement, je pense. Ensuite, il y a eu aussi la disparition de Robert Redford, pour qui Yann a déjà fait une émission spéciale avec Robin. Avec son insolente beauté, Robert Redford incarnait une certaine face solaire de l'Amérique. Militant écologiste avant l'heure, engagé, indépendant et prospère. L'acteur a joué dans de grands classiques comme Butch Cassidy et le Kid en 1969, L'Arnaque en 1973 ou encore Les Hommes du Président en 1976. Sa mort a été annoncée au New York Times par l'agente Cindy Berger. Il est décédé dans son sommeil tôt le 16 septembre 2025 dans les montagnes près de Provo. Démocrate convaincu, défenseur des tribus amérindiennes et des paysages américains, fondateur du Sundance Film Festival, devenu la référence internationale du film indépendant, le cow-boy aux longues mèches dorées a cherché toute sa vie à tracer sa voie, gardant dès qu'il pouvait se le permettre ses distances avec Hollywood. Les grands studios lui ont offert quelques 70 rôles pour la plupart des personnages positifs, engagés, comme Les Trois Jours du Condor, romanesque, comme dans Gatsby le Magnifique, et inspirant toujours la sympathie même lorsqu'il jouait les escrocs comme dans Butch Cassidy et Le Kid, L'Arnaque ou son dernier film, The Old Man and the Gun, en 2018. Il a notamment tourné dans 7 films de Sidney Pollack. S'il reçoit un Oscar en 2002, pour l'ensemble de sa carrière, il n'a comme acteur jamais été récompensé pour un film en particulier, bien que plusieurs de ses prestations aient été saluées dans des films emblématiques comme Jeremiah Johnson, Les Hommes du Président ou encore Out of Africa, qui l'ont intronisé comme l'archétype de l'amant idéal. Passons maintenant en juin 2025. Pour être exact, le 26. Le cinéma vient de perdre l'un de ses plus grands musiciens, un géant à l'origine de certaines des plus fabuleuses bandes originales de l'histoire du 7e art. Je ne sais pas si tu vois de qui je parle.
Pour l'instant, non.
Lalo Schifrin. Lalo Schifrin, né en 1932 à Buenos Aires, s'en est allé le jeudi donc 26 juin, des suites d'une pneumonie à l'âge de 93 ans. Mais son immense héritage semble d'ores et déjà gravé pour des décennies. Le compositeur argentin, auteur de la musique de Mission Impossible et de celle d'autres classiques tels que Bullitt, ou alors L'Inspecteur Harry, ou encore Opération Dragon, avait ainsi décroché au fil de sa longue carrière pas moins de 6 nominations aux Oscars avant d'être couronné d'une statuette d'honneur en 2018, pour l'ensemble de son œuvre, remise par Clint Eastwood himself, pour qui Schifrin avait composé pas moins de 8 bandes originales. Lalo Schifrin devient compositeur pour le label Verve, appartenant à la Metro-Goldwyn-Mayer, en 1963 et signe Les Félins en 1964 de René Clément avec Alain Delon et Jane Fonda. À Hollywood, ne s'en passent plus et ils sont nombreux alors à faire appel à lui. Don Siegel, John Borman, George Lucas, Clint Eastwood, Peter Yates ou encore Schifrin composent plusieurs dizaines de musiques de films. Il signe aussi la musique de Dirty Harry, qui a influencé toute une génération de compositeurs américains. Et bien sûr, celle de l'incontournable Bullet en 1968. Parmi ses nombreuses partitions, notons aussi celle de Enter the Dragon en 1973 de Robert Klaus, premier énorme succès hollywoodien de l'acteur Bruce Lee. Donc tu dois connaître, je pense. De la comédie d'action Rush Hour en 1998. Avec qui d'ailleurs ça, Rush Hour, tu dois connaître?
Peut-être, la prononciation n'est peut-être pas...
Rush Hour.
Rush Hour. Ah ouais. Chris Rock joue justement avec Jackie Chan.
Voilà, avec Jackie Chan également, bien sûr. Ou encore le film Tango de Carlos Saura. Lalo Schifrin a aussi beaucoup travaillé pour la télévision et notamment pour Bruce Geller, le producteur de Mission Impossible en 1966 et de Manix en 1967, qui lui confia les bandes-sons de ses séries aujourd'hui cultes.
Savourez nos différences sur Radio G 101.5 FM.
8h47 sur Radio G. Dans Savourer nos différences, on écoute des extraits de tous les jours. Mais il arrive exceptionnellement que Radio G produise aussi des émissions spéciales, quelquefois en public. Alors, amusons-nous ensemble dans cette spéciale.
Alors moi, j'ai décidé de prendre des chansons de Johnny. Et en fait, vous devez deviner la date à laquelle il a sorti cette chanson.
Ok.
Voilà. Sauf que c'est une sorte de juste prix, quoi. Juste année. Genre,
ah, oui,
dire une date, je vais dire c'est plus, c'est moins. Et puis,
d'accord.
Tour de rôle, on fera comme ça. Puis j'ai des petites anecdotes par-ci par-là que j'ai trouvé sur Wikipédia, je cite.
Ah bah tu vois, il y a très grand chose que toi,
dictionnaire.
Florian.
Donc on va commencer avec allumer le feu, hein, à votre avis, quel est
98.
Tu joues pas.
Qui est un briquet? Attends, je dis.
98.
Oui, 98. 98, bon. Oui, effectivement, okay. c'est la bonne réponse. Mais si vous savez un peu trop, laissez jouer les autres.
Voilà. C'était la seule, je savais en fait.
Okay, d'accord.
Ça passe.
Ok, écrite par
Johnny Hallyday.
Non. Écrite par Zazie et composée par Pascal Obispo.
Ok, super bien joué. Ok, c'était ma petite anecdote, mais...
Tu peux sortir deux minutes, Franck, là, s'il te plaît. Nous, jouer un peu.
Je connais que celle-ci.
Hein. Oui, bien sûr.
Allumer le soleil et faire danser les viandes et les fleurs.
Passons donc à la chanson L'Envie. À votre avis, quelle année la chanson L'Envie?
Alors, on a 82.
C'est toi qui commence, je veux bien. 82, non, c'est plus.
Ouais. 85.
C'est plus.
92.
C'est moins.
86.
Oui.
86.
Ok, écrite par
Jean-Jacques.
Jean-Jacques. Et alors, pour la petite anecdote, il l'avait proposé à Sardou, et en fait, Sardou l'a refusé. Ok, on passe donc la chanson Le Pénitencier.
C'est vieux ça.
Ah, oui.
64.
Oh. C'est ça.
C'est l'année 64.
Oui. Bien joué. Bravo. Bravo. Ok, tu me pourrais un peu mon jeu, mais.
Non, je suis désolé, bravo. J'ai dit ça au hasard, mais.
Ok.
Enfin, c'était un peu dans cette.
Pas trop d'anecdotes là-dessus.
1862.
Une quatrième. Alors, un peu plus. Ouais. Au mari. La chanson Au mari.
Au mari.
Dans zéro.
2002.
Arrête de regarder ma feuille.
Non, je te jure,
c'est 2002.
On est trop fort.
Je pensais. GG. C'est vrai que c'était aussi récent en vrai.
Ouais, c'est récent.
Ça fait 15 ans quand même.
Écrit par
GG.
Jean-Jacques Goldman.
Non, GG.
C'est pas Jean-Jacques Goldman.
Gérald.
C'est pas Obispo non plus.
Gérald.
C'est Gérald. Bien joué.
GG.
C'est Gérard de Palmas. Ah, okay. Oui. Et apparemment, c'est son plus grosse vente de single.
Mm-hmm.
Voilà. 1 400 000.
C'était l'époque des singles.
Voilà, c'est ça. Et pour la dernière, un peu plus vieille, on a tous quelque chose de Tennessee.
Oh, 77.
Et il l'a,
non, 80... C'est plus.
88.
C'est moins.
86.
C'est moins.
85.
Ah,
85. Merci Bida.
Des extraits, des souvenirs, des archives, de la musique choisie, c'est Savourer nos différences sur Radio G.
En avant la musique maintenant avec un extrait de l'émission Cover sur les reprises des standards célèbres.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
Tom's Diner de Suzanne Vega, un morceau qui raconte ou décrit plutôt l'expérience de Suzanne Vega dans un diner, un espèce de café restaurant américain.
Eh oui, il est déjà 8h52.
Radio G en DAB+ sur Angers. Un point, c'est tout.
Si vous nous écoutez depuis 8 heures, eh bien vous avez déjà entendu la première partie de l'horoscope. Si votre signe n'est pas encore passé, eh bien c'est maintenant.
Verseau.
La lune perturbe votre sommeil. Bon, les écrans aussi, mais on n'en parle pas.
Vierge.
Votre conjoint pense très fort à vous. Pas toujours en bien, mais l'essentiel, c'est d'exister dans les esprits.
Taureau.
Les astres sont formels, quelqu'un pense à vous. Probablement pour vous réclamer quelque chose.
Poisson.
Quelqu'un n'attend qu'un signe de votre part. Envoyez-le, ça presse.
Cancer.
Votre partenaire a un secret. Vous préférez ne pas savoir ? Eh ben, vous avez probablement raison.
Balance.
Belle réussite à venir sur un dossier important. Profitez de ce moment rare, savourez-le pleinement.
C'est l'été et on est avec vous tous les matins, de 8h à 9h sur Radio G. Et pour cet été 2026, c'est cadeau, on vous offre une nouvelle série de podcasts inédits, exclusifs. Voici Scandale, dans Savourer nos différences.
L'escroc dont la mort a failli renverser la République.
Non, mais c'est un scandale.
C'est un scandale.
Quelle indignité.
Un escroc de génie. Des millions envolés, un cadavre dans un chalet enneigé, et trois semaines plus tard, des émeutes sanglantes en plein cœur de Paris qui mentent de faire tomber la République. Voici l'affaire Stavinsky en 1934. On l'appelle le beau Sacha. Alexandre Stavinsky est un escroc élégant, charmeur, né en Ukraine, arrivé en France pour conquérir Paris, et il y parvient à sa façon. Son génie, c'est le réseau. Stavinsky a ses entrées partout, dans la presse, dans la police, et surtout dans la politique. Des députés, des notables, des hommes influents gravitent autour de lui. Cette toile de complicité lui permet de monter des escroqueries de grande envergure pendant des années, sans jamais être vraiment inquiété. Son chef-d'œuvre, le Crédit Municipal de Bayonne. Le Le 23 décembre 1933, le directeur de cet établissement est arrêté pour avoir mis en circulation des fonds bons aux porteurs pour un montant vertigineux, 261 millions de francs. Mais l'enquête révèle vite que le directeur n'est qu'un exécutant. Le véritable cerveau, c'est Stavinsky. Un montage de type pyramide de Ponzi qui lui a permis de détourner plus de 200 millions de francs sous la surveillance complice d'élus locaux. Le beau Sacha est désormais l'homme le plus recherché de France.